Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour lundi 2 mars pour une nouvelle émission de la LBB Radio, présentée pour les élèves de seconde 13, animée par nous-mêmes, Arnaud
et Dorian.
Aujourd'hui, nous recevons 10 chroniqueurs qui ont travaillé pendant plusieurs semaines sur la ville de Berlin. Nos premiers chroniqueurs, Vincent et Lilian, vont nous présenter cette ville depuis la réunification de l'Allemagne.
Ensuite, nous accueillerons Sarah et Lena. Elles nous parleront de Berlin, une ville moderne qui nous passe son passé à travers son architecture. Par la suite, Fiona et Candice nous présenteront le street art qui a débuté après la chute du mur de Berlin sur certaines portions du mur qui ont été conservées. Et pour poursuivre notre émission, nous accueillerons Marie et Tony qui évoqueront l'évolution de Berlin entre 1956 à travers des témoignages de Berlinois.
Pour terminer, nous allons faire un bond dans le temps pour vous parler des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, qui nous sont présentés par Émile et Arthur.
Nous accueillons maintenant nos premiers chroniqueurs, Vincent et Lilian.
Bonjour tout le monde, nous allons effectivement vous présenter la ville de Berlin. Avec ses 3,5 millions d'habitants, elle est aujourd'hui la capitale de l'Allemagne, mais ça n'a pas toujours été le cas. On vous propose un petit retour en arrière avant de vous dire pourquoi Berlin est une ville tellement appréciée aujourd'hui.
Quelles étaient les différentes parties de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale ?
Berlin a subi d'énormes dégâts durant la Seconde Guerre mondiale. Après sa capitulation, le 8 mai 1945, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. Soviétique, américaine, britannique et française. Berlin est également partagé en 4 secteurs. L'année 1949 voit la création de la République fédérale allemande, RFA, dans la trizone constituée par les zones françaises, britanniques et américaines, suivie de près par celle de la République démocratique allemande, RDA, dans la zone sous occupation soviétique. La création de deux États consolide la division politique de Berlin. On commence alors les deux côtés à sécuriser et à fermer la frontière entre les deux États. Entre 1949 et 1961, plusieurs millions d'Allemands fuient la RDA par Berlin.
Et quelles ont été les conséquences de cet exode ?
En 1961, la RDA est au bord de l'effondrement économique et social. Le mur est construit dans la nuit du 13 août 1961 afin d'empêcher l'exode des habitants de l'Est vers l'Ouest.
Quand le mur est tombé ?
Après 28 ans de séparation, le mur tombe le 9 novembre 1989 suite à une révolte populaire. Le régime est allemand, s'effondre et la seule solution qui s'impose est la réunification de la RDA et de la RFA, le 3 octobre 1990. Berlin devient alors la capitale de l'Allemagne réunifiée.
Quelles ont été les conséquences de cette réunification ?
Cette réunification a beaucoup influé sur la ville actuelle, puisqu'il reste quelques sections du mur de Berlin. La plupart du temps, ces sections sont accompagnées d'un mémorial ou d'un musée de commémoration.
Que fait aujourd'hui que Berlin est une ville très appréciée des touristes ?
Très étendue, la superficie de Berlin est 8 fois supérieure à celle de Paris. La ville dispose de nombreux cafés et espaces verts. Il s'agit sans doute de la capitale la plus verte d'Europe. De nombreux musées sont à découvrir, mais ce sont les principaux monuments de la ville qui éclairent le mieux sur le poids de l'histoire dans la capitale. Mais ce ne sont pas les seuls monuments. Il y a par exemple la porte de Brandebourg, qui est un des monuments les plus emblématiques de Berlin. Elle est le symbole de l'unité retrouvée de l'Allemagne et de sa capitale après la chute du mur. L'emblème de Berlin est le Berliner Bär. Il s'agit d'un ours. Ces statues sont présentes en nombre à Berlin. Elles sont colorées et à taille humaine. Berlin est aussi appréciée puisque la ville compte près de 11 500 000 touristes par an et se classe parmi les villes les plus visitées en Europe puisqu'elle est au 6e rang. En effet, la capitale comporte plusieurs lieux touristiques comme KDV, centre commercial situé dans l'est de Berlin, ou encore East Side Gallery, morceau du mur de Berlin transformé en galerie à ciel ouvert. C'est une attraction les plus incontournables avec ses œuvres peintes sur le mur.
Et pour finir, Berlin a su faire de son lourd passé une richesse en redynamisant ces lieux qui ont marqué l'histoire de l'Allemagne et de Berlin, ce qui fait toute la splendeur de la ville.
Merci beaucoup à vous deux et à bientôt sur la LBB Radio.
Nous passons maintenant à la chronique de Sarah et Lena qui vont nous parler de l'architecture de Berlin qui nous permet de nous souvenir du passé en mêlant modernité et antériorité.
Bonjour, je suis Lena.
Bonjour, je suis Sarah.
Vous avez découvert la ville de Berlin grâce à Lilian et Vincent. Nous allons maintenant vous présenter comment la ville moderne, qu'est Berlin, n'oublie pas son passé à travers son architecture. Dans un premier temps, nous partagerons avec vous nos recherches concernant le mémorial de l'Holocauste, avant de vous présenter la coupole du Reichstag. Pour finir, nous vous présenterons la topographie de la terreur. Cette ville a adopté des mesures dont l'objectif était de conserver son passé peu glorieux lors du Troisième Reich, afin de ne pas oublier ce qui s'est malheureusement passé.
Le mémorial de l'Holocauste fut construit grâce au soutien des citoyens de Berlin, mené par la journaliste Léa Roche et l'historien Eberhard Jackel.
Quand a-t-il été construit ?
La ville commença la construction du mémorial de l'Holocauste le 1er avril 2003 et l'acheva le 15 décembre 2004.
Le mémorial a été conçu avec un budget d'environ 26 millions d'euros par l'architecte américain Peter Eisenman et l'ingénieur Bureau Appold.
Quand a-t-il été inauguré ?
Son inauguration eut lieu le 10 mai 2005 et fut ouvert au public 2 jours plus tard. Le mémorial est aujourd'hui ouvert chaque jour de 10h à 19h. Son entrée est gratuite et le mémorial est constamment surveillé. Il se situe à proximité du palais du Reichstag. Ce mémorial est constitué de 2711 blocs de béton rectangulaires assemblés en forme de damier. On peut le qualifier d'un champ de 19 000 m².
Ces blocs sont de différentes tailles et le sol est inégal afin de procurer aux visiteurs un sentiment de malaise et d'inquiétude pour rappeler la cruauté qu'ont subi les Juifs lors du Troisième Reich. Un mémorial d'une si grande ampleur en Europe est rare. Berlin a choisi d'en construire un pour que ce soit vraiment symbolique pour les Allemands.
Maintenant, autre mémorial important, la coupole du Reichstag surplombant le palais. Le palais du Reichstag a initialement été construit en 1894, mais après avoir été brûlé et bombardé en 1933, il a été reconstruit, puis totalement refait après la réunification des deux Allemagnes. Son entrée et ses visites sont libres et se situent proche du zoo de Berlin.
Norman Foster, l'architecte qui a aussi réalisé la coupole du British Museum à Londres, eut l'idée de rajouter une coupole de verre sur le bâtiment.
Pourquoi une coupole de verre ?
Pour signifier la transparence de la démocratie par le verre, l'architecte prit la décision de garder l'ancienne ossature afin de préserver l'histoire. Deux grands drapeaux allemands surplombent le grand édifice pour signer la présence de l'Allemagne démocratique.
En dessous de la coupole du Reichstag, y travaille actuellement l'Assemblée fédérale de l'Allemagne. Le cône central de la coupole, en verre, a été conçu pour apporter la lumière extérieure jusque dans la salle des séances, située plus bas. Nous montons graduellement en marchant dans un couloir qui tourne en spirale. C'est la rampe hélicoïdale. Le sommet de la coupole n'est pas fermé.
Le style du palais adopte une architecture néoclassique. Elle mesure plus de 75 mètres. Il y a 3000 mètres de carrés de verre. C'est un endroit très visité à Berlin. Certains de nos camarades de classe sont allés la visiter il y a quelque temps. C'est un haut lieu touristique car nous avons aussi une très belle vue sur Berlin.
Pour finir, nous vous présentons la topographie de la terreur.
C'est quoi la topographie de la terreur ?
La topographie de la terreur, construite par Peter Zumthor, ouvert publiquement le 7 mai 2010, est un musée mémorial situé à Berlin et aujourd'hui dédié à la documentation sur la planification et les actions meurtrières de la Gestapo, DSS, à l'endroit où s'élevaient leurs anciens quartiers généraux.
Ces bâtiments qui abritaient alors les bureaux de ces organisations furent détruits durant les bombardements alliés de 1945. Malgré ces bombardements, il reste de ces bâtiments les caves de la Gestapo qui se prolongent à l'extérieur, où les prisonniers politiques étaient interrogés, torturés et exécutés lors de la Seconde Guerre mondiale. Un segment de 200 mètres du mur de Berlin borde le site.
Vous avez quelques informations pratiques concernant ce musée ?
Ce musée est ouvert de 10h à 20h. L'entrée est gratuite. Le site propose des visites guidées ainsi que des conférences sur demande. Il se situe à 10 minutes du mémorial de l'Holocauste.
Après avoir présenté ces trois mémoriaux, on peut en conclure que cette ville, par son architecture, garde une trace de son passé, mais s'inscrit également dans la modernité grâce à ses nombreux bâtiments à l'architecture originale, donnant un esprit de modernité et de nouveauté.
Merci beaucoup à nos deux chroniqueurs, Sarah et Léna.
Vous êtes toujours sur LBB Radio et nous continuons tout de suite avec Candy Sefena qui va nous parler du street art à Berlin.
Bonjour à tous, on va donc vous parler du street art. Le street art, autrement dit l'art de rue, est un art visuel qui se développe dans les milieux publics. Ces milieux sont des champs d'intervention de différents artistes qui viennent de différents endroits pour représenter une œuvre. Les restes du mur de Berlin sont très utilisés par les artistes adeptes du street art.
Quelle est l'histoire du mur de Berlin ?
Le mur de Berlin, mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest, est officiellement appelé par le gouvernement est-allemand mur de protection antifasciste.
Quand a été érigé ce mur ?
Il est érigé en plein Berlin à partir de la nuit du 12 au 13 août 1961 par la République démocratique allemande, la RDA, qui tente ainsi de mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d'Allemagne, la RFA. Même si le mur il est tombé le 9 novembre 1989, il reste aujourd'hui un lieu de mémoire grâce à l'Istai Gallery.
C'est quoi l'Istai Gallery ?
C'est un morceau du mur de Berlin de 1,3 km de long situé près du centre de Berlin, qui sert de support pour une exposition d'œuvres de street art. Elle est constituée de 118 peintures d'artistes de 21 pays, du côté est du mur de Berlin. Elle est peut-être la plus grande galerie permanente en plein air dans le monde. Le premier tableau a été effectué par Christine McLean en décembre 1989, immédiatement après la chute du mur.
À la suite de nombreux endommagements dus à l'érosion ou au vandalisme, aux touristes qui écrivent leur nom ou des messages sur les deux côtés du mur, ou de ceux qui enlèvent des morceaux de béton pour les revendre, les artistes ont été invités à restaurer leur œuvre en 2009 à l'occasion du 20e anniversaire de la chute du mur.
Des artistes et des milliers d'autres anonymes vinrent du monde entier pour laisser une trace sur le mur tant abhorré. Les fresques couvraient des kilomètres et certaines devinrent des icônes.
Le sujet n'avait pas le mérite de l'originalité. On y a peint des colombes, on mélangea les couleurs des drapeaux de la RDA et de la RFA et on fusionna les étoiles de la bannière américaine avec l'étoile rouge.
L'Istai Gallery est devenue l'une des principales attractions touristiques de la capitale, avec environ 1 million de visites chaque année.
Pouvez-vous nous parler d'une artiste en particulier ?
Birgit Kinder est née en 1962, c'est-à-dire un an après la construction du mur, en Thuringe. En 1982, elle s'installe à Berlin où elle débute sa carrière artistique en tant que peintre muraliste, mais où elle est aussi confrontée avec la réalité du mur qui encercle la partie ouest de la ville. La peinture représente à son centre une trabande de couleur claire, traversant le mur de Berlin sur fond bleu.
Pourquoi une trabante ?
Parce que c'est la voiture typique des citoyens de la RDA. Il y avait aussi la Wartburg et c'était les deux seuls types de voitures à l'époque. On voit une plaque d'immatriculation avec une date, le 9 novembre 1989, la date de la chute du mur, et non l'abréviation d'un nom d'une ville, comme c'est le cas en Allemagne. La voiture surgit de l'ombre qui représente la dictature de la RDA, vers la lumière qui symbolise la liberté retrouvée. À gauche, en haut de l'œuvre, on voit écrit un slogan « Test the best », qui peut être compris comme l'idée du passage vers l'ouest, le meilleur côté, attesté par les Allemands de l'Est. Le mur de Berlin a incarné l'enfermement de la population est-allemande, interdite de voyager à l'ouest.
Quelle est l'œuvre la plus emblématique de l'Istai Gallery ?
C'est sans doute le baiser fraternel d'Erich Honecker, le secrétaire général du Parti communiste est-allemand, et de Léonid Brejnev, chef du Kremlin, immortalisé par l'artiste russe Dimitri Vrubel sur l'Istai Gallery, a disparu. L'œuvre la plus célèbre de cette galerie en plein air, créée en 1990 sur un pan original du mur de Berlin, un an après sa chute, a été pulvérisée. Seule la légende de « Mon Dieu, aide-moi à survivre à cet amour mortel » a été épargnée.
Malgré le passé de cette ville, les citoyens ont décidé de ne garder que le positif de son histoire grâce au street art.
Merci de nous avoir écoutés.
Nous vous remercions de nous avoir transportés dans le monde du street art et nous laissons la parole à Marie et Tony.
Marie et Tony vont donc nous livrer des témoignages des Berlinois qui ont vécu à l'époque du mur, ce qui va nous permettre de mieux comprendre comment était la vie. On vous écoute tout de suite avec un premier témoignage sur la vie pendant le mur de Berlin.
Vous avez grandi avec le mur ?
Oui, je suis née en 1968. Le mur pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal.
Vous habitiez de quel côté ? À l'ouest ou à l'est ?
Du côté ouest. Je me souviens qu'on allait souvent en Bavière, donc dans le sud de l'Allemagne. Les gens là-bas ne pouvaient pas s'imaginer qu'on le sente bien à Berlin. Ils nous regardaient toujours pleins de compassion parce que nous retournions de plein gré à Berlin.
Est-ce que le mur avait un côté menaçant ?
Berlin-Ouest était très étendu. On a du mal à s'imaginer comment c'était. On ne voyait pratiquement pas le mur. Parfois, quand on allait se baigner à Spandau, on savait qu'il y avait la frontière et qu'on n'avait pas le droit d'aller nager plus loin. Et parfois, on allait se promener le long du mur et on savait qu'on était observé. C'était un peu comme un jeu. Moi, j'habitais à côté de Teufelsburg, dans le quartier américain. Le Teufelsburg, c'est une colline, et tout en haut, il y avait une station radar pour les soldats américains. C'était un endroit encore plus protégé que le mur. Il y avait vraiment 5-6 grillages de fils barbelés et autour des soldats armés.
On écoute maintenant un autre témoignage de la chute du mur de Berlin.
Ce soir-là, j'allais au Staatsoper voir un opéra de Wagner, soit 3 heures plus l'entracte. Il fallait franchir la frontière avant minuit pour ne pas se faire arrêter. Mais arrivé au poste frontière, devant cette foule si dense, je compris que minuit allait sonner, me réservant un sort peu enviable, tel Cendrillon. Alors j'ai tendu mon passeport au policier est-allemand, avec une mine suffisamment expressive pour qu'il me laisse emprunter l'entrée des diplomates, et j'ai passé la frontière avec le sentiment de l'avoir échappé belle. Le lendemain matin, j'ai compris que les visiteurs de l'Est, massés dans la nuit, avaient ouvert le mur. On peut donc être au cœur même de l'événement et de ne pas en saisir toute la portée. J'avais ainsi vécu un moment fort tout en craignant pour ma propre liberté. Par la suite, Berlin fut envahi par les curieux de l'histoire qui s'empara des morceaux du mur comme autant de souvenirs de vacances.
Voici maintenant un autre témoignage après la chute du mur, vu par une Allemande de l'Est.
Tu as vu le mur quand tu étais petite ?
Je l'ai sûrement vu. Je viens de la forêt de Thuringe et je me souviens encore des tours de contrôle qui étaient à la frontière. Mais le mur était déjà tombé.
Est-ce que ta vie a beaucoup changé après la chute du mur ?
J'avais 4 ans à la chute du mur, mais je me rappelle seulement qu'on recevait plus de paquets de ma grand-mère qui habitait à l'ouest. Dedans, il y avait toujours du Nutella et des sucreries. Et tout d'un coup, on n'en a plus reçu. À l'époque, je n'ai pas compris pourquoi, mais plus tard, en y repensant, j'ai réalisé ce qui s'était passé.
C'était comment la vie en Allemagne de l'Est ?
Évidemment, je ne m'en souviens plus. Mes parents m'ont dit que le problème primordial, c'était la pénurie de marchandises. Il y avait juste assez de pantalons, assez pour tout le monde, mais c'était juste. Ma grand-mère, de l'Est, avait des jumeaux. Elle avait des problèmes pour trouver 2 bananes, une pour chacun. C'était difficile. C'est ce que j'ai entendu dire de l'Allemagne de l'Est, mais on m'a dit aussi que le système scolaire était plus que juste que l'actuel.
Bruno Dozy était un étudiant français à Berlin-Ouest. Voici son histoire.
Il y a pas mal de gens un peu radicaux. Quelques canettes de bière qui volent aussi. Des grands gardes frontières en tenue militaire mais sans armes se tiennent épaule contre épaule. Un peu en retrait de la ligne blanche qui matérialise la frontière. Ce qui me frappe, c'est que les policiers de Berlin-Ouest sont également là pour empêcher les passages à l'Est. Les jeunes les provoquent un peu, mais l'ambiance reste bon enfant.
On comprend donc avec tous ces témoignages que le mur de Berlin, en particulier sa chute, a été un des moments qui a marqué l'Europe. Le témoignage des habitants montre une certaine peur et angoisse à l'idée que le mur de Berlin ait pu exister. Malgré la chute du mur de Berlin, cette barrière culturelle et financière est toujours présente entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest.
Nous pensons que ces deux parties forment une union politique. Cependant, nous savons de sources sûres que l'Allemagne reste divisée malgré la chute du mur. Nous pouvons prendre comme exemple le salaire des deux côtés qui ne sont pas les mêmes.
Nous remercions Marie et Tony de nous avoir fait revivre ce moment de l'histoire.
Pour finir, nous accueillerons notre studio Émilie et Arthur qui vont vous évoquer un autre grand moment de l'histoire, les Jeux Olympiques de Berlin de 1936.
Bonjour à tous, nous allons vous parler des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin du 1er au 16 août. Pour commencer, nous vous parlerons du contexte historique, l'aspect politique et la question du boycott de cette compétition.
Pourquoi ces Jeux ont eu lieu à Berlin malgré le contexte historique ?
Les Jeux Olympiques étaient déjà attribués à l'Allemagne en 1916 mais ont été annulés à cause de la première guerre mondiale. L'Allemagne est suspendue des Jeux de 1920 et de 1924. Cependant, après un long processus de négociation, les autorités allemandes ont réussi à faire réintégrer leur pays pour les Jeux Olympiques de 1928 et postuler pour accueillir les Jeux d'été de 1936. Leur argument est que les Jeux ont déjà été attribués à l'Allemagne dans le passé, en 1916, donc les infrastructures sont déjà prêtes et la candidature est présentée comme un moyen de redorer son blason.
À la surprise générale, malgré ses propos haineux envers les Juifs, Hitler approuve la réception des Jeux et promet de tout faire pour la réussite de l'événement. Le dictateur allemand clame publiquement la promotion des relations entre les nations et le développement du sport chez les jeunes. Cependant, son but ultime est la prospérité acquise des atouts politiques non négligeables de l'organisation des Jeux Olympiques.
Qui a organisé ces Jeux Olympiques ?
Ces Jeux Olympiques ont été organisés par la DRL, Bureau des Sports du Reich. La première affiche des JO a été créée pour l'édition de 1912. C'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui choisit l'affiche officielle parmi de nombreuses propositions. Une affiche olympique communique des informations directement liées aux Jeux Olympiques. Elle permet grâce à son graphisme d'identifier facilement les JO avec la représentation des anneaux devenant en quelque sorte une ambassadrice des JO à elle seule.
Dans le contexte du moment, le ministère de la propagande du Dr Goebbels diffuse avant les jeux quantité de cartes postales, badges, bulletins d'information, posters, traduits en plus de 15 langues. Plus de 2500 journalistes font le déplacement. Un véritable tourisme sportif, totalement inédit, se développe aussi. Avec plus de 70 000 visiteurs, dont 15 000 Américains, l'URSS, qui ne fait pas partie du mouvement olympique à cette époque, est de fait absente des Jeux.
Pourquoi ces Jeux olympiques restent encore aujourd'hui symboliques ?
Les JO de Berlin prévaient une signification très politique, même si personne ne pouvait prévoir les changements politiques qui allaient survenir en Allemagne. Quand en 1931, le CIO confia à Berlin et à la République de Weimar l'organisation des Jeux. Lorsque les JO commencèrent, la tribune officielle est pleine. Quand apparaît Hitler, 100 000 bras se dressent alors pour le salut nazi. Le président du CIO doit intervenir auprès d'Hitler pour s'assurer qu'il se contentera de proclamer uniquement l'ouverture des Jeux.
Selon Hitler, c'est l'idée de race qui domine l'histoire, et les Jeux olympiques de 1936 représentaient une opportunité incroyable de montrer la domination et la suprématie de la race aryenne. Pour le régime du Troisième Reich, ces Jeux devaient être l'occasion de prouver sa puissance et la suprématie de la race aryenne selon la terminologie nazie. De nombreuses lois anti-juives ont été créées pendant ces Jeux olympiques.
Est-ce que certains pays ont refusé de participer aux Jeux ?
Alors que le choix de la ville de Berlin date de 1931, l'arrivée au pouvoir du parti nazi en 1933 et la montée consécutive des tensions internationales va donner à ces Jeux une dimension fortement politique. Les arguments des partisans du boycott sont les suivants.
L'Allemagne nazie discrimine les Juifs, principal motif du boycott ou de la relocalisation des Jeux. La discrimination n'est guère compatible avec l'esprit sportif. Les Jeux demeurent une plateforme pour le régime nazi afin de promouvoir la supériorité de la race aryenne. Une participation aux Jeux sous-entendrait une adhésion aux persécutions et au racisme.
Les adhérents de la participation aux Jeux olympiques, dont le Comité international olympique, défendent les arguments suivants.
Les aspects sportifs et politiques doivent être dissociés. Il n'y a pas de discrimination, donc il n'y a pas besoin de boycott. Il n'y a pas juste de discrimination en Allemagne. Il ne faut pas associer le fléau social à l'Allemagne uniquement. Les États-Unis, opposants au régime nazi et favorables au boycott, menaient eux-mêmes des ségrégations raciales contre sa propre population.
Les pays qui décident le boycott organisent des contre-jeux populaires parallèles à Barcelone. Les Jeux populaires de Barcelone abandonnent rapidement ses préoccupations initiales et deviennent une alternative aux Jeux de Berlin de 1936 et deviennent le slogan de la protestation contre l'organisation de l'événement sportif par l'Allemagne fasciste. Initialement, sa raison d'existence était d'enrayer la distinction entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière dans le milieu du sport.
Malgré ces JO qui restent associés au nazisme, l'Allemagne est aujourd'hui une grande nation du sport, en particulier pour le foot avec son équipe de Dortmund et du FC Bayern. Enfin, l'équipe nationale aura remporté 4 titres de champion du monde.
C'était les élèves de seconde 13 qui vous ont animé la LBB Radio pendant presque une heure. J'aimerais remercier mes camarades de classe pour leur travail et leur esprit toujours positif et généreux, mais encore Madame Viala pour nous avoir fait partager son expérience sur l'Allemagne et Berlin.
Merci à vous aussi de nous avoir écoutés et j'espère que vous aurez appris des choses sur Berlin. Et surtout, l'émission vous aura plu. Je vous dis au revoir et à bientôt sur la LBB Radio.